Les balades de Christophe sur RCN, Christophe Dabesca.
Bienvenue dans les balades de Christophe. Bonjour mon Christophe, comment vas-tu ?
Salut mon patron préféré, ça va ?
Bon, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, surtout qu'on va parler d'un personnage que tout le monde connaît au moins de nom.
Au moins de nom, oui.
Il s'agit de Jean Jaurès.
Surtout pour son assassinat d'ailleurs.
C'est vrai, mais on en reparlera ou pas d'ailleurs dans cette émission. En attendant, raconte-nous un petit... On va vous raconter qui était Jean Jaurès, mais raconte-nous un petit peu qui était sa famille à Jean Jaurès. C'était qui ses parents ?
Ses parents, c'était Adélaïde Barbaza et Jules Jaurès.
Ouais.
Alors Adélaïde Barbaza, elle était plutôt bourgeoise.
D'accord.
Et Jules Jaurès, c'était un farfelu, un mec qui changeait beaucoup de métier.
Quand tu dis que Adélaïde Barbaza était plutôt bourgeoise, qui étaient ses parents ? Enfin, de quelle bourgeoisie on parle en fait ?
Bourgeoisie de province, mais une petite bourgeoisie.
Son papa s'appelait Joseph Salvert, c'est ça ?
Non, c'était son grand-père.
Ah, c'est le grand-père.
Ouais, c'est le grand-père qui était maire de Castres.
Ah, il était donc il y avait quand même déjà un lien avec la politique dans la famille de la maman.
Il y avait un lien avec la politique et d'ailleurs quand il s'est présenté, la première fois à des élections, il était connu par son nom déjà.
Ouais, alors on va reparler évidemment de son nom, mais continuons de parler un peu de ses parents et de son papa. Jules Jaurès, c'est un personnage un peu haut en couleur quand même.
Oui. D'abord, il était monarchiste.
Ah.
Ouais, c'était fidèle, hein. Monarchiste légaliste, hein, puisqu'il était fidèle au duc de Chambord.
D'accord.
Parce que tu sais qu'il y avait les Orléans et Chambord.
D'accord, et lui, il était plutôt du côté des Chambord, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Donc, Jules Jaurès, il fait quoi dans la vie ?
Alors, je te dis, il a été négociant, et en plus, on ne sait pas vraiment. Après, il a été paysan à la Fédial, c'est au domaine de Fédial, c'est près de Albi, Castres, tous ces coins-là,
ouais.
dans le Tarn.
Et du coup, c'est lui qui gérait tout ou sa femme l'a aidé ? Raconte-nous un petit peu.
C'est sa femme qui a surtout tout géré, puisqu'il a eu assez vite des problèmes de santé.
Ah oui, d'accord.
D'accord. Après, Adélaïde, elle a tout géré, en fait.
Donc on a affaire à un papa qui est plutôt haut en couleur.
Ouais, haut en couleur, ouais.
Qui, finalement, pour des raisons de santé, ne peut pas faire grand-chose. Une maman issue plutôt d'une famille...
Il ne peut rien faire, hein. Il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut rien faire.
Il ne peut rien faire du tout, ouais.
Travail bien commandé, un travail à moitié fait avec lui.
D'accord. Et du coup, c'est madame qui fait tourner la baraque. Alors,
voilà.
on le redit, la maman de Jean Jaurès, issue d'une famille qui est plutôt un petit peu aisée.
Un petit peu aisée.
Parlons justement du frère de la maman de Jean Jaurès, Louis Barbaza.
Louis Barbaza, c'était un célibataire assez aisé,
ouais.
qui paya les études de Jean Jaurès à la petite pension et au collège de Castres.
D'accord.
Et ensuite, ça va être pris par les cousins germains, qui eux sont encore plus élevés. Parce que c'est Benjamin Jaurès, lui, qui était sénateur
ouais.
du Tarn, et il est mort ministre de la Marine.
D'accord.
Et c'était un amiral, comme son frère, Charles.
Oui, donc du côté des cousins, on est plutôt déjà dans la politique, dans le militaire.
Voilà, c'est ça.
Et on a un peu de sous, quoi.
C'est ça, on a un peu de sous, oui. Parce que Benjamin Jaurès va aider pour la vie courante Jean Jaurès quand il va faire ses études à Paris. Puisque le reste du temps, il aura c'est une bourse qui va avoir, une bourse d'études.
D'accord.
Que la République accordait facilement pour changer les élites.
Ok. Voilà. Donc si on comprend bien, finalement, ses parents sont pas forcément très riches.
Sont pas forcément très riches, mais ils sont intelligents.
Ouais. Et ils sont entourés d'une famille qui, elle, a un petit peu plus évolué et un peu plus de sous, quoi.
C'est ça.
Ce qui va aider effectivement Jean Jaurès à faire des études.
Ce qui va aider Jean Jaurès à faire des études.
Et donc, tu disais, il était à la petite pension et dans un collège à Castres. Après, raconte-nous un peu le parcours de Jean Jaurès.
Alors,
à l'école.
Il a eu des prix. Il a eu plein de prix à l'école. Et il a eu de la chance parce qu'au départ, il voulait rentrer pour rester près de sa maman.
Ouais.
Il voulait rentrer dans l'administration des postes.
D'accord.
Ouais, l'administration des postes, mais le destin va en décider autrement.
Alors justement, parlons du destin, il va croiser un certain Félix de la Tour.
C'est ça, il va croiser le préfet du Tarn.
D'accord.
Qui est venu remettre, dans ce temps-là, il y avait des prix à la fin de l'année.
Ouais.
Et en fait, on faisait venir le maire ou soit le préfet. Le maire,
d'accord,
le préfet et tout ça, pour remettre les prix. Et on choisissait un élève pour faire un discours. Et c'est Jean Jaurès qui avait une bonne éloquence, tout ça, qui savait manier les discours, comme on le verra après. Il a fait un discours qui a touché le préfet du Tarn, qui a été voir sa maman.
D'accord.
Et qui a obtenu une bourse pour qu'il aille étudier à Paris au collège Sainte-Barthe.
D'accord.
Sainte-Barthe.
Ok. Donc effectivement, ce...
Une classe préparatoire à l'école normale supérieure quand même.
Ah ouais, c'est pas rien.
C'est pas rien.
Donc le préfet de la Tour, il est important dans la vie de Jean-Jaurès.
Il est vraiment important, ouais. C'est lui qui a la base de tout, en fait.
Oui, effectivement, ouais. Il est reçu donc à l'école normale supérieure,
c'est ça.
En 1878.
C'est ça, il a le concours d'entrée à l'école normale supérieure en 1878.
Ouais.
Et aussi, il est premier en dissertation française au concours général.
Oui, donc il a une aisance à l'écrit, quand même.
Oui, il est costaud.
Ouais, ouais. Ensuite, en 1881.
Il obtient la troisième place. Pour l'agrégation de philosophie derrière Bergson.
Ouais.
Et le premier, c'est un illustre inconnu. Hein.
D'accord. Effectivement. Et c'était quoi le sujet de la thèse de Jaurès?
Un des sujets de la thèse, c'est... Parce qu'il a fait plusieurs thèses. Hein. Alors, c'est l'histoire du socialisme allemand.
D'accord.
Parce que Jaurès parlait allemand, couramment. Hein.
Ok. Et donc, il s'intéresse effectivement à ce moment-là...
Donc, il s'intéresse au socialiste allemand, oui. Au socialisme allemand, pardon.
Ouais, effectivement. Et donc, il a plutôt une première approche un peu sociale, quoi.
Hein, il a plutôt une première approche un peu sociale. D'ailleurs, c'est ce que vont lui reprocher ses amis socialistes comme Jules Guesde, qui n'était pas vraiment ami avec Jaurès. Hein.
D'accord. Alors, là, on a parlé un petit peu de l'aspect études, scolarité, famille, etc. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est le lien entre Jean Jaurès et les femmes. Est-ce qu'il s'intéressait aux femmes?
On peut pas dire ça. Hein. Théoriquement, il en a eu deux.
D'accord.
Il a eu un amour platonique, Marie-Paul Pratt.
D'accord.
Et ça, dont le père a trouvé que c'était un mec de basse extraction, donc il a dit à sa fille de se marier vite fait avec un avocat, parce qu'on ne sait jamais.
D'accord. Donc, parce qu'il fait quoi à ce moment-là, Jean Jaurès, dans la vie?
Il est prof.
Prof de quoi?
Il est prof de philo au lycée d'Albi.
D'accord, donc pour le papa de Marie-Paul Pratt,
ouais.
C'est pas...
C'est pas assez, ça. C'est pas assez.
Ouais.
D'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour le père de Louise Barbaza. Non, c'est pas Louise Barbaza, c'est comment déjà? Je ne sais plus, attends.
La maman, tu veux dire?
Ouais.
La maman?
Non, sa femme.
La femme à qui?
La femme à Jaurès.
Ah bah justement, tu vas nous en parler. Est-ce que ce serait pas Louise Blois?
Si, c'est Louise, voilà. Blois, pardon, je cherchais. Je savais que ça avait un rapport avec la royauté encore, mais je me rappelais plus.
Alors justement, parle-nous de Louise Blois, c'est qui? C'est cette deuxième femme qui va rentrer dans sa vie?
Ah ouais, c'est ça. Celle-là, ça va être sa vraie femme. Son père est un négociant en fromage.
Ah oui.
Donc c'était un commerçant, quoi.
Oui, c'est ça, quelqu'un qui a un peu de sous aussi.
Voilà, quelqu'un qui a un peu de sous. Le seul domaine qui appartiendra à la famille, c'est sa femme qui l'amènera.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et sa femme, elle a failli ne pas être sa femme, puisque son père a dit c'est un mec de basse extraction. Sauf qu'il a été élu député. Donc,
ah oui.
C'est pour ça qu'en 1886, il autorise finalement le mariage, parce qu'il a été élu en député en 1885.
Ouais, donc il change un peu de statut, fameux Jean Jaurès.
Il change un peu de statut, ouais.
Ce couple fonctionne pas mal, il y a des enfants?
Oui, alors il y a Louis-Paul Jaurès.
D'accord.
Qui a une histoire assez particulière. Il va s'engager à 17 ans pour laver l'honneur du nom de son père qui est pour les nationalistes français comme Barrès par exemple, qui était surtout connu comme un pacifiste.
D'accord.
À la solde de l'Allemagne, soi-disant.
Ah oui, d'accord.
Soi-disant. Donc,
on a reproché à Jean Jaurès d'être plutôt pacifiste pour au profit des Allemands, quoi.
C'est pour ça, alors que c'est faux.
D'accord.
Je le prouverai après.
Voilà. Donc le fils.
Le fils, il s'est engagé à 17 ans.
D'accord.
Et il est mort le 3 juin 1918 à la deuxième bataille de la Marne.
Il est mort très jeune, le fils.
Il est mort
du coup.
Très jeune, du coup. Ouais.
Et il a un deuxième enfant, donc Jean Jaurès.
C'est Madeleine.
D'accord. Parle-nous de Madeleine un petit peu.
Madeleine Jaurès, alors elle, c'est un cas spécial aussi, puisqu'elle a eu un enfant sourd et muet qui est né en 1910.
D'accord.
C'est au grand dam de Jean Jaurès. C'est une des blessures de Jean Jaurès.
Parce que d'avoir un enfant,
d'avoir un petit fils handicapé.
D'accord.
À cette époque-là, c'était pas
évident.
C'était pas évident.
Donc là, on a un petit peu suivi le parcours de Jean Jaurès depuis son enfance, ses études, sa vie familiale. Dans un instant, on va parler un petit peu plus de lui dans la politique.
Ouais.
Ça va être important que tu nous racontes parce que Jean Jaurès est surtout connu pour ça. Ce sera juste après.
Enfin. Il est connu pour être pacifiste.
Oui, aussi, oui.
Et c'est pas vraiment un pacifiste.
Mais on va en reparler dans quelques instants, justement. Le temps d'écouter peut-être simplement une première pause musicale. Tu as choisi
Jacques Brel.
Ah, très bien,
Jaurès.
Monsieur Brel. Avec le titre Jaurès.
Avec le titre Jaurès.
Et ben,
c'est un de mes préférés, celui-là.
Et ben, on l'écoute maintenant sur RCN.
Ils étaient usés à 15 ans. Finissait en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour. Le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Christophe Dabeska vous emmène en balade sur RCN.
De retour dans les balades de Christophe sur RCN. On parle de Jean Jaurès. Il y a quelques instants, on a retracé un petit peu son parcours depuis son enfance jusqu'à la naissance de ses enfants et un peu la vie de ses enfants. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de Jean Jaurès. Il était qui, cet homme? On l'a un peu évoqué tout à l'heure. C'était un professeur de philo. Il était plutôt orienté comment dans la vie? Raconte-nous.
Il était plutôt orienté républicain.
D'accord.
Au départ.
Ouais. Alors qu'il avait un papa qui était plutôt royaliste. C'est amusant.
C'est amusant parce que c'est pas le premier paradoxe.
Ouais. Alors, je le disais, il était prof de philo, c'est ça, dans un lycée à Albi.
Il était prof de philo à Albi. Et ouais. Après, il a été maître de conférence à la fac de Toulouse.
D'accord.
En 1883.
D'accord. Il avait aussi un autre boulot. Il n'était pas que prof de philo.
Non, non. Il aimait écrire. C'était un journaliste.
Ouais, c'est ça.
À la Dépêche et à la Petite République. Et après, il fera l'Humanité en 1904.
Ouais, donc il a un petit parcours journalistique quand même.
Un gros parcours journalistique, c'est énorme. Ouais, il faudrait une deuxième émission pour parler de son
boulot de journaliste. Mais la question, c'est parce qu'on le connaît aussi pour un aspect un petit peu politique quand même, Jean Jaurès. Avant 85. Où il est élu, est-ce qu'il s'intéresse à la politique ?
Oui, il s'intéresse à la politique, vers 81, par exemple.
D'accord. Qu'est-ce qui prouve qu'il était intéressé par la politique ?
Parce qu'il a participé à la campagne d'un député.
D'accord.
En guise d'entraînement, parce qu'en 85, c'est lui qui sera... candidat.
Alors, justement, donc, il se présente à la députation en 85, il est élu ?
Il est élu, oui. C'est le plus jeune député de France, élu sur une liste républicaine.
D'accord. Là, on est en 85, il est élu dans quelle circonscription ?
Dans la circonscription de Carmo.
Et qui est où ça ?
C'est dans le Tarn.
D'accord.
C'est là où il y a les mineurs, en fait.
Et comment il fait sa campagne ? Sur quoi il fait sa campagne ?
Sur le social. Sur le social, et il dit qu'il est un paysan cultivé.
D'accord.
Mais qu'il se sent surtout paysan. D'ailleurs, il parle pas toi.
Ok.
Ça aide.
Donc, si je comprends bien, il s'ancre un petit peu dans le territoire en expliquant un peu d'où il vient pour être élu, en expliquant qu'il va être plutôt axé social. Il est élu donc en 85. Est-ce qu'il va rester longtemps député ?
Non, il va être battu en 89.
D'accord. Et pour quelle raison ?
Il est par une raison que pendant 4 ans, son adversaire, qui était le gendre du patron de la mine du coin,
ouais.
Monsieur Soulages,
d'accord.
En a eu gros sur la patate. Et il a détruit l'image de Jean Jaurès, en fait.
Et en faisant quoi ?
En disant qu'il tenait pas ses promesses, enfin, tu sais, comme on fait une campagne électorale maintenant, quoi.
Ouais, mais il n'y a pas aussi une question de le considérer un petit peu trop à gauche ?
Si, parce qu'il est pour le social. Déjà, il va, par exemple, faire voter la première loi des retraites en 1910. Mmh. Et ensuite, il va voter en 1913 l'impôt sur le revenu aussi.
Oui, donc dans tout ce qu'il fait, il est plutôt effectivement tourné vers la gauche, vers le social. Et
centre-gauche, on dira. Au début, il est centre-gauche.
Oui, sauf que là, on va quand même l'étiqueter rouge quand même.
Sauf que là, il est un peu rouge, ouais.
Ouais, en tout cas, il est étiqueté rouge.
Il est étiqueté
par
rouge.
Les autres.
Par les autres.
Pour le faire perdre.
Moi, je pense qu'il n'est pas si rouge que ça.
Ouais. Il est élu adjoint quelque peu. Il est à la mairie de Toulouse, c'est ça ?
Il est élu adjoint pour l'éducation parce que c'était un autre de ses dadas parce qu'il a connu Jules Ferry.
Ah oui, d'accord.
C'est d'ailleurs à cause de Jules Ferry qu'il est resté ami avec Jules Ferry. C'est à cause de ça qu'il s'est intéressé à l'éducation, forcément. Mmh.
Donc, si je comprends bien, il perd la députation en 89, mais ça l'empêche pas de continuer la politique.
Ça l'empêche pas à la mairie de Toulouse. À la mairie de Toulouse, oui.
Mais alors, en 1892, il se passe quelque chose. Ouais. Le député Soulages, donc, qui a sorti Jean Jaurès trois ans plus tôt, démissionne.
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a eu la grève des mineurs de Carmo.
Ah ouais. Finalement, dans son usine.
Dans son fief.
Dans son fief à lui, ouais.
Parce que c'est un mineur. Qui avait été élu maire de Carmo.
D'accord.
Et le patron de la mine l'a licencié parce qu'il avait des retards. Enfin, il avait des retards et des absences qui étaient autorisées par la loi puisqu'il était maire. Mais bon, tu sais, en ce moment-là, c'était les riches et les puissants qui avaient un peu les...
Oui, les manettes, bien sûr.
Seulement Jean Jaurès a réussi à mettre le gouvernement de l'époque dans le coup, et du coup, ils ont été obligés de négocier, et la direction de la mine a perdu.
Ok.
Donc, voilà.
Donc, c'est ce qui fait qu'il se fait même finalement battre aussi politiquement, quoi. Et que ça l'oblige à démissionner.
Non, c'est pas Jean Jaurès, ça.
Non,
c'est,
Soulage, c'est... je parle bien de Soulage. Oui, bien sûr.
Soulage, il a trahi son... Enfin, il a trahi... Enfin, il s'est fait battre par la grève, en fait.
Oui, c'est ça, exactement.
Il a été obligé parce qu'il soutenait son beau-père. Oui, son beau-père, oui.
Et du coup, Jean Jaurès se représente à ce moment-là.
Il se représente, oui.
Il est réélu. Et en 1898, il est à nouveau battu.
Il est à nouveau battu parce qu'il était, ce que j'ai pas beaucoup lu dans les bouquins, mais je tiens à le dire, il était Dreyfusard.
D'accord.
Parce qu'il a écrit un bouquin sur l'épreuve, qui s'appelait L'épreuve.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a
démonté... En deux mots, hein, les plus loin, preuve. L'épreuve. Ouais.
C'est-à-dire qu'il a démonté, toutes les soi-disant preuves de la culpabilité de Dreyfus. De Dreyfus, ouais.
Et du coup, il est...
Et il a surtout aussi déposé au procès de Zola.
D'accord.
Voilà.
Ah, donc il a soutenu Zola, vraiment.
Ouais, et ses amis socialistes ne l'ont pas supporté parce que pour eux, c'était... C'était d'abord une lutte des classes entre la bourgeoisie et les juifs. Voilà. Alors que Jean Jaurès, lui, déjà, pour lui, c'était plutôt un humain. Donc chaque humain qui était abandonné par sa caste avait le droit d'être défendu par les socialistes.
Ouais. En fait. Ouais, donc effectivement, voilà. À ce moment-là, il y a une vraie rupture.
À ce moment-là, il y a une rupture, ouais. C'est pour ça qu'il a été battu, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
On va continuer de parler de Jean Jaurès dans quelques minutes et on va revenir un petit peu sur son rôle et sa place finalement dans la République quand il va notamment soutenir Millerand, c'est bien ça.
Oui.
Ce sera dans un instant, le temps d'écouter tout de suite Big Soul avec le Brio et on continue de parler de Jean Jaurès dans quelques minutes sur RCN.
Branche la guitare, entonnez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur.
RCN, les balades de Christophe.
Toujours dans les balades de Christophe sur RCN. Aujourd'hui, nous parlons d'un certain Jean Jaurès. Après avoir un petit peu suivi toute son histoire familiale et son début de parcours en politique, où il a été député à plusieurs reprises, mais aussi plusieurs fois battu à la députation. On a vu il y a quelques instants pourquoi.
Et en fait, lui, en plus, battu. Ouais. C'est-à-dire que avec le système de scrutin, t'avais le droit de changer de circonscription entre les deux tours. Par exemple, en 98, certains de ses amis ont voulu qu'il change de circonscription entre les deux tours pour être sûr d'être élu, parce que c'était quelqu'un d'important. Ouais. Et il a refusé.
D'accord.
Parce qu'il a dit j'ai été battu au premier tour, voilà.
Bon, puis on a vu effectivement que notamment son soutien à Dreyfus et à Émile Zola avait joué contre lui, plutôt globalement.
Oui, vraiment contre lui, parce que Jules Guesde ne lui a pas pardonné.
Effectivement. Et puis, ça a été aussi l'occasion pour nous de découvrir un petit peu les prémices du socialisme à la Dreyfus, finalement, d'un homme plutôt de centre-gauche, comme tu disais.
Pas à la Dreyfus.
À la Jaurès, pardon.
À la Jaurès.
Excuse-moi, autant pour moi. À la Jean Jaurès, absolument. Revenons maintenant sur le soutien que Jean Jaurès apportait à Millerand.
Ah oui, alors Millerand, c'est le premier socialiste qui a accepté d'être ministre.
D'accord. En
fait. Ça a été un drame. Et Jean Jaurès l'a soutenu puisque, selon lui, la République était en danger à cette époque-là. Alors, c'est-à-dire que Paul Déroulède, qui est bien connu dans le coin aussi,
ouais,
a menacé de faire un petit coup d'État.
D'accord.
Donc, pour lui, les socialistes, pour Jaurès, les socialistes devaient défendre la République.
D'accord. Et alors, justement, est-ce qu'on peut considérer que Jaurès était considéré comme le sauveur de la République ?
Ben, un peu. Un peu, parce qu'il a réussi à convaincre certains socialistes qui étaient pour la participation de le suivre.
D'accord.
Donc, grâce aux voix socialistes,
il a pu sauver.
La République a été sauvée. Enfin, ouais. Millerand et Waldeck-Rousseau déjà, Millerand ensuite, parce que Waldeck-Rousseau c'était l'équivalent du président du Conseil.
D'accord.
Et Millerand, après, il a été ministre lui.
Mm.
Et bon, et c'est Jaurès qui a sauvé, on peut dire, Waldeck-Rousseau, puisque Waldeck-Rousseau a été Dreyfusard.
D'accord.
Donc, ils n'étaient pas du même bord, mais...
Mais il y avait quand même un point commun.
Il y avait Dreyfus, quoi. Ouais. Il y avait Dreyfus. Ouais, Dreyfus, oui.
Entre les deux.
Et Waldeck-Rousseau, j'en profite, a été pressenti pour être l'avocat de Dreyfus au départ, mais il n'a pas été choisi.
D'accord.
C'était un autre. Parce qu'il n'a pas osé se lancer dans ça au départ, parce qu'il avait une carrière politique à
mener. Ouais, absolument. Revenons à Jean Jaurès. J'ai dit plusieurs fois qu'il était plutôt proche du socialisme.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire plutôt qu'il était pour des lois sociales plutôt que socialiste ?
Moi, je pense. Je vais me faire taper sur les doigts, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui ne seront pas...
En
accord avec moi, parce que tout le monde depuis le congrès de Tours essaye le congrès de Tours, c'est la fondation du Parti communiste.
D'accord.
Tout le monde essaye de se dire jaurassien.
D'accord.
Voilà. Jaurès s'est récupéré à toutes les sauces comme De Gaulle, par
ouais,
exemple.
Ouais.
Ce qui a le don de m'énerver. Mais
oui.
Tu peux pas savoir, ça m'énerve.
Alors, mais revenons un petit peu, voilà, sur les lois qu'il a soutenues.
Eh ben, il a soutenu la loi sur les retraites, qui était un système de capitalisation.
Ouais, ouais.
Hein, calqué sur le système, par exemple, des retraites en Allemagne.
Ok.
Du système de Bismarck.
Ok.
Voilà.
Et
l'âge de la retraite, pardon, je vais me faire encore taper sur les doigts, était à 65 ans.
D'accord.
Voilà.
Ok. C'est un système qui était géré plutôt par les employés, c'est ça ?
Ouais, les employés.
Les employeurs et les employés.
Les employeurs et les employés. L'État servait uniquement de
garantie.
De garantie financière.
Et autre loi qu'il a soutenue aussi ?
Ah, alors la séparation, alors là je ne l'ai pas mis. La séparation de l'Église et de l'État, parce que lui, il voulait une élite séparée de la religion, en fait.
D'accord.
Paradoxe, il a fait quand même la communion de sa fille.
Ah oui, oui, oui.
Puisque sa femme était catholique.
Louise Blois, oui.
Louise Blois était catholique, oui. Et d'ailleurs, Jules Guesde et ses copains socialistes, lapsus, excusez-moi, lui ont tenu rigueur.
Ouais.
Voilà.
Ouais, parce qu'effectivement.
Parce qu'il lui cherchait.
Il lui cherchait des poules,
il cherchait tout le temps des poules dans la tête.
Bon, on a parlé du système des retraites, on a parlé effectivement de la séparation Église-État. L'impôt sur le revenu aussi ?
Ah, l'impôt sur le revenu, oui. Alors personne n'en voulait, sauf lui.
D'accord.
Sauf lui et quelques autres, comme Caillaux, par exemple. Ils voulaient. L'impôt sur le revenu, puisque ça permettait de soigner les ouvriers, tout ça. Voilà.
Ça, c'est le côté orientation politique soutenu ou suivi par Jean Jaurès.
C'est ça.
Parlons maintenant de son rôle aussi dans les guerres. Jean Jaurès, est-ce que c'était un pacifiste ?
Ah, alors, je vais encore me faire taper sur les doigts.
C'est pas grave.
Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est... Une organisation internationale qui soit capable de résoudre les conflits entre les belligérants potentiels.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est l'ancêtre d'abord de l'AFDN.
Oui, et de
et
l'ONU aujourd'hui.
Et ensuite de l'ONU. Oui. Mais il voulait quand même que si les négociations n'aboutissaient à rien, il autorisait le pays à se défendre. C'est-à-dire qu'il était pour une guerre défensive. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit, selon lui, de pénétrer sur son territoire. Mais on n'avait pas le droit d'aller sur le territoire d'un autre.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Donc effectivement, il prône plutôt la négociation, la discussion.
C'est ça.
Mais quand on se fait envahir, on a le droit de riposter, grosso modo.
Quand on se fait envahir, on a le droit de se défendre.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais pas d'aller envahir
c'est
les voisins.
Ça. On doit rester sur son territoire, grosso modo. Quoi.
C'est ça. Pardon, je voudrais rajouter un truc. C'est d'ailleurs, il a écrit un bouquin, ça s'appelle L'Armée Nouvelle.
Mmh.
Et la République a récupéré sa mort. Enfin, a fait croire tout et n'importe quoi, ce qu'il arrangeait en gros, quand il est mort.
D'accord. En fait. Oui, ce qui arrive
parce
de
que,
temps en temps. Oui,
ce qui arrive de temps en temps. Parce que rien nous dit qu'il aurait été pour le gouvernement d'Union nationale qui a eu lieu tout de suite après le commencement de la guerre par Viviani, par exemple.
D'accord, ouais.
Et voilà.
Mais donc, on le laisse entendre quand même. Ouais.
Donc on laisse entendre qu'il c'était un pacifiste. C'est, à mon avis, une petite erreur.
Est-ce que on peut dire que Jean Jaurès est quelqu'un d'assez connu et célèbre un peu dans le monde ?
Ah oui, oui, parce qu'il a quand même beaucoup voyagé à l'étranger en Europe, en Belgique, en Allemagne, en Amérique latine aussi.
Et du coup, on retrouve des rues à son nom.
Du coup, on retrouve des rues à son nom. Il y en a une, enfin, à Rome, et il y en a une à Berlin.
Très bien.
Voilà.
Allez, dernière question avant de se séparer. Pourquoi Rosa Luxembourg en voulait à Jaurès ?
Eh ben, parce que Rosa Luxembourg lui a pas pardonné. Rosa Luxembourg était allemande.
Ouais.
Elle lui a pas pardonné qu'il était pour la participation des socialistes à un gouvernement bourgeois.
D'accord.
Voilà. D'où, pour finir, moi, je tiens à dire que les étrangers suivaient la politique française. En fait.
D'accord. Jean Jaurès a inspiré les pays autour de nous.
Oui, Jean Jaurès a inspiré les pays autour de nous.
Très bien.
Voilà. Jean Jaurès avait lu Marx.
Ouais.
Voilà.
Merci Christophe de nous avoir parlé de Jean Jaurès. Je suis sûr qu'on aurait eu des tas de choses encore à raconter sur ce grand personnage.
Il faut une autre émission.
On a essayé en tout cas de balayer un petit peu sa vie pour mieux le connaître et mieux savoir à qui on a affaire quand on voit la rue Jean Jaurès à Nancy, par exemple.
Je reparlerai de l'affaire Dreyfus quand j'étudierai Barrès.
Eh ben, ça serait une prochaine fois, effectivement.
Voilà, voilà.
Merci Christophe, très belle journée à vous et à très bientôt
à
pour une prochaine balade.